cette fois-ci comme invité Francky Ballonnet, qui officie au Requin Marteau. Alors j'ai une petite présentation. Donc, tu étais présenté comme un disciple de Charlie Schlingot. Au sein des Requins Marteaux, tu as participé à l'élaboration du supermarché Ferraille ainsi qu'au passage de la revue Ferraille à sa version Ferraille illustrée en 2003 et qui te vaut le titre de rédacteur en chef de l'entreprise Ferraille. Tu es également scénariste, entre autres de l'excellent Muerto Quid avec Witko au dessin et du court-métrage Villemol 80 réalisé par Winschluss. Et je ne sais pas si tu participes à l'animation qui entoure le vote du Grand Prix de la ville d'Angoulême cette année, mais je pense que c'est les Requins Marteaux qui s'en occupent. Est-ce que c'est le cas ?
Bon, eh bien, tout d'abord, bonjour à tous vos auditeurs.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir d'être invité sur votre antenne. Alors, quelques petites mises au point, peut-être. Donc, j'étais co-rédacteur en chef de Ferraille. On co-dirigeait donc la revue avec des gens pas faciles qui s'appellent Winschluss et Ciseaux. Ça fait partie de mes années noires, on va dire. Je suis content que ça soit terminé.
Ça balance dès le début, quoi.
Voilà. Mais je sais qu'ils sont partis déjà, donc ça va. Et avant qu'ils comprennent comment ça marche une radio sur Internet, je pense qu'on a quelques années devant nous. Les élections, oui, on s'en occupait, mais en fait, j'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire que je travaille aussi à l'association Ferraille. L'association Ferraille, elle a été fondée car à une époque, on faisait beaucoup d'événementiels ou de création d'expositions chez les Requins Marteaux. Et les gens, l'administratif, ne comprenaient pas pourquoi on dépensait des sous là-dedans. Et les gens qui étaient dans l'événementiel ne comprenaient pas pourquoi on faisait des livres. Donc j'ai décidé de clarifier la situation et on a donc scindé la société en deux sous-sociétés. Donc c'est Ferraille qui s'occupe des élections cette année. Je ne sais pas si on peut véritablement parler de fiasco, comme vous l'avez dit dans votre question. Mais je ne sais pas combien il y a eu d'auteurs qui sont venus voter. Mais on l'a juste mis en scène, nous, en fait.
Voilà. Donc, finalement, quand tu parles d'événements et d'animations, je lisais que Thomas Bernard, dans un interview pour Du Neuf, signalait que ce système d'événements et d'événementiels, au départ, avait été a priori mis en place pour présenter les travaux, c'est-à-dire que la visibilité est toujours compliquée pour les éditeurs et les éditeurs indépendants en particulier, et que finalement, la création du supermarché Ferraille ou d'autres permettait d'offrir au Requin Marteau une forme de visibilité, de mettre en avant les livres au travers de tous ces produits dérivés totalement décalés et de pouvoir finalement créer une curiosité. Est-ce que voilà, il y a vraiment toujours ça qui est présent ou finalement cet événementiel a dépassé son objectif premier pour devenir une entité à part entière qui vit par elle-même?
Bon, et il faut d'abord savoir que cette personne, Thomas Bernard, a été congédié. C'est un premier point, c'est quelqu'un que j'ai très très vite écarté de la structure, qui travaille maintenant au Musée d'art contemporain de Bordeaux. Autant dire qu'on ne peut pas finir plus bas, je pense. Et quant à ce que vous dites par rapport à la dynamique qui se crée quand on... Oui, effectivement, pour ne pas dire trop de bêtises, les expositions, c'est ce qui a fait connaître les Requins Marteaux. C'est-à-dire que la bande dessinée, c'est quand même un milieu assez étriqué, on sait tous de quoi on parle ici, je pense. Donc en fait, ça nous a vraiment permis d'aller chercher des gens qui ne lisaient pas nos livres. Et il en reste beaucoup encore. Mais ça nous a vraiment permis de nous ouvrir sur plein de monde qui au final viennent voir une exposition, passent un peu de bon temps et en finissent toujours sur les livres. Donc c'est vraiment aller chercher les lecteurs là où ils ne se trouvent pas. Le supermarché, ça a tellement bien marché que je l'ai franchisé, figurez-vous. Ça a été revendu aux comédiens qui ont fait l'animation sur les élections. Et ça tourne... Ça tourne comme ça une dizaine de fois par an, je pense. Voilà, ça marche bien.
Est-ce que du coup, c'est dans la même optique de toucher un maximum de gens et de récupérer un maximum de public que vous avez maintenant comme ça quasiment trois générations d'auteurs? Il y a les fondateurs, les anciens, je peux pas dire vieux quand même, mais Winschluss et autres. Il y a une génération, on peut citer Mathieu Sapin, Nina Antico, Morgane Navarro. Et puis derrière ça... Il y a des jeunes ou des tout jeunes comme Léo Marais, comme Pierre Ferrero qui vient de sortir un bouquin chez vous, Valfray, on en a reçu déjà une série aussi en émission. Comme ça, toute une génération de gens qui se superposent. J'ai l'impression aussi parfois qu'il y a dans ce catalogue des générations et puis aussi des bouquins qui ont très bien marché, d'autres beaucoup moins, mais les bouquins qui ont bien marché permettent de garder une sorte de liberté au niveau des choix, une liberté éditoriale et de prendre des risques.
Alors, vous avez raison sur les jeunes auteurs. Par exemple, on va publier une de vos compatriotes qui s'appelle Noémie Marcilly. Donc, moi, sous mon administration, en tout cas, ça reste extrêmement important de faire des premiers livres. C'est exactement ce qui me manquait à moi quand j'étais jeune, de pouvoir faire un premier livre. Donc ça, c'est déjà pour permettre, bien, aux jeunes d'exister plus vite. Et puis, il y a un autre avantage à publier des très très jeunes auteurs et faire des premiers livres, c'est que généralement, ils osent même pas parler de contrat ou de choses comme ça. Et ensuite, il se trouve que, après, pour ceux qui ont la reconnaissance du ventre, il y en a quand même quelques-uns, normalement, l'auteur se rappelle toujours de ce premier livre, et même quand il devient beaucoup plus gros, il n'y en a pas tant que ça chez nous, il continue de faire des livres. Par exemple, prenons l'exemple de Vinschlus, qui a fait Pinocchio, qui s'est vendu à 30 000 à la grosse version, qui nous a pas tant ramené d'argent que ça, parce que si vous y connaissez un peu en fabrication et que vous voyez le prix du bouquin, normalement c'est une aberration économique. Mais par contre, voilà, Vincent, eh ben, il va faire son prochain livre chez nous, alors qu'on lui doit une thune mais monstrueuse. Ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Et pourtant, il va faire son prochain livre chez nous. Incroyable.
Bravo. Alors, une question qui revient un peu, hein, qui revient un peu en arrière. Il y a dans les premières discussions que j'avais eues avec toi et dans les premières choses que j'ai lues sur les Requins Marteaux, il y avait un positionnement qui était clairement anti-art contemporain. Alors, en bande dessinée indépendante, il y a toujours cette tentation de se rapprocher de l'art, donc de dire d'avoir un mieux-disant culturel par rapport à une production industrielle qu'on déteste, etc. Et donc, vous êtes quand même relativement dégagé de ça en disant, je me souviens, Vinicius, je crois, dans une interview, avait dit, l'art contemporain, il s'en fout de nous. Et nous, en échange, on s'en bat les couilles de l'art contemporain. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a toute une stratégie qui a été développée par rapport à ça, qui inclut une certaine potacherie, donc une façon de constamment renvoyer dans les cordes une forme de discours intellectuel. Est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose qui a présidé à la formation des Requins Marteaux, ça c'est certain. Et comment est-ce que ça a évolué par rapport à ça? Parce que
Bon, alors, bien, par rapport à l'art contemporain, bon, je n'y connais pas grand-chose, mais on essaie de rester un peu ouvert par rapport à ça, parce qu'il y a quand même pas mal de fric là, à se faire avec ça. Mais attendez, ça va me revenir le truc sur l'art. Oui, c'est ça. En fait, j'ai lu l'interview dont tu parlais. Oui, non, c'est le truc, le discours qu'il y aurait plutôt, c'est de vouloir à tout prix faire reconnaître la bande dessinée comme une forme d'art. De dire, la BD, c'est de l'art et tout, c'est de l'art. Et après, se plaindre parce qu'on n'est pas pris dans les musées ou les choses comme ça. Mais c'est de forcer ce médium à avoir des lettres de noblesse. Mais c'est vrai que tout le monde s'en fout de notre gueule, quoi. La bande dessinée, c'est honnêtement, on croit que ça existe parce qu'on traîne beaucoup entre nous. Mais il suffit d'aller dans un dîner avec des gens qui sont architectes ou des trucs comme ça. Et de même de citer Blotch et personne ne sait qui c'est. Donc ça, c'est la réalité, c'est qu'on n'existe pas vraiment, quoi.
Oui, mais toutes les formes de culture pointue n'existent pas vraiment. Si tu parles de noms d'artistes, tu parles de Matthew Barney n'importe où.
Qui?
personne ne voit de quoi il
Ouais.
s'agit. Donc, on peut être dans un truc de niche. Il y a plutôt une question là. En effet, ce dont tu parles par rapport à la reconnaissance me parle parce qu'il y a un mouvement artistique qu'on appelle le pictorialisme, qui est un mouvement photographique important dans la fin des années du 19e, et dans lesquels ils se sont dit on voudrait être reconnu comme un art. La photographie, c'est de l'art, bordel. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à travailler la matière et l'excellence de l'image en retouchant négatif, en retouchant les positifs, les tirages, donc au fusain, en faisant des tirages virés au bleu, etc. Donc, on a ajoutant un mieux-disant technique à l'intérieur et une, qui viendrait rapprocher ça de la patte artistique, etc. Donc, on retrouve ça d'une, certaine manière en, en bande dessinée, avec des gens comme Skuyten qui font montre d'un grand travail, du drapé, de la gravure, des choses comme ça, qui, pense-t-il, va donner le caractère artistique de la bande dessinée. Or, comme tu disais, ce qui est intéressant de voir, c'est que bon, au moment où le pictorialisme s'arrête, derrière, c'est la street photographie qui est une façon d'affirmer l'acte brutal photographique dans sa spécificité, donc le cadrage, le contraste, le fait qu'un tirage photographique puisse être quelque chose qui soit abstrait et non pas simplement de représentation de l'image. Est-ce qu'il y a, y a une demande de reconnaissance de la bande dessinée tout de même quand même, quand tu dis « je voudrais bien », ce que j'entends en filigrane, c'est « j'aimerais bien être une bouffe d'architecte qui le dise oh, « vous faites de la bande dessinée, mais c'est formidable
ouais, ». Bah, regardons les chiffres un petit peu, quelques minutes ensemble. Non, mais cette année, je crois qu'il y a eu 6000 sorties d'albums, ou 5500, un truc comme ça. Il y avait eu un débat en 2002, ici, je crois, sur « mon Dieu, il va y avoir 2000 sorties de BD, c'est la fin du métier ». Donc la bande dessinée, il y en a énormément, économiquement, ça a quand même un poids énorme. C'est ce qui se vend le plus sous la forme de livres, en tout cas en France. Et pourtant, pour autant, il y a quand même une critique. Il y a les films, c'est critiqué tous les mercredis, je crois, dans le journal. Il n'y a pas l'équivalent pour la bande dessinée, alors que c'est là. Mais ça continue de ne pas exister, quoi. Enfin, honnêtement, ça n'existe pas, je trouve.
Et toi,
Moi, je veux pas me battre, à me forcer à dire que ça existe. Si ça va exister, ça finira par exister. Elle finira par exister par elle-même. Je pense que ça prendra encore quelques petites vingtaines ou peut-être 100 ans ou quelque chose comme ça. Mais la réalité, c'est que ça n'existe pas. C'est pas présent dans les médias. On n'en parle pas à la télé. Ici, on essaie de nous faire croire qu'on est au canne de la bande dessinée, mais il n'y a même pas un sujet aux 13h ou 20h. Bon, peut-être que maintenant que France 2 est partenaire, ça va peut-être un peu changer. Mais pendant des années, il n'y avait même pas un entrefilet au journal télévisé. Donc,
par rapport à cette réalité, des tas de structures sont pris entre deux feux, qui est un, défendre la bande dessinée, et puis surtout, en fait, ce qui passe devant, qui est défendre leur bande dessinée, c'est-à-dire ce qu'ils font. Alors, vous avez pris une stratégie qui était, on y va franco, quoi, donc on fait cette politique de produits dérivés, le supermarché Ferrat, etc. Et puis, il y a eu, ça a produit une forme de buzz. Moi, je me souviens, les supermarchés Ferrat, c'était des trucs de dingue, tout le monde avait envie d'acheter ces boîtes de dauphins, etc. Et est-ce que tu as l'impression que ça a produit, ça a été la pierre ajoutée à l'édifice d'une construction de la visibilité et même de la reconnaissance?
Ben, énormément. Il faut aussi rappeler que pendant les supermarchés Ferrat, il y avait une grosse foire au vin et que ça a pas mal contribué au buzz quand même. Moi, ça m'a lancé en tout cas sur la scène. Mais nous, ça commence vraiment pour nous, on existe depuis plus de 20 ans. Et ça commence en 2003 avec le supermarché Ferraille qui fait un carton à Angoulême avec tout le monde qui vient acheter du public, mais aussi d'autres éditeurs. C'est ça qui nous met sur la carte, quoi. Et c'est pas pour autant que ça nous a facilité les choses, mais au moins, on a commencé à avoir un petit peu plus de visibilité.
Alors on parlait justement en termes de visibilité et tout ça. Il y a un an ou deux, une sorte de grand cri d'alarme lancé par les requins suite à des soucis, beaucoup de malversations, on a entendu des choses horribles.
Ouais.
Où est-ce qu'en sont les requins marteaux aujourd'hui? Une des premières questions qu'on avait en pensant faire l'interview aujourd'hui, c'est quel est l'état de santé des requins marteaux?
Très bien, alors je vais être hyper franc. Tout va bien. Non, en fait, alors moi, j'ai pris les rênes de cette fabuleuse maison il y a 2 ans à peu près, vraiment, effectivement. Je l'ai fait parce que j'adorais le personnel administratif. Et honnêtement, il y a 2 ans, c'était foutu. Et au lieu de les laisser mourir comme ça de chagrin, de désespoir, etc., je me suis dit, Fred, c'est mon vrai nom, tu vas aller là-bas et puis tu vas les euthanasier gentiment. Tu vas les laisser partir en paix, mais au moins que ce soit pas, en plus d'être extrêmement douloureux, quelque chose de trop difficile à vivre. Donc je suis vraiment allé pour dire voilà, on va mourir et tout ça, il faut laisser aller, fermer les yeux, penser à des images super positives. Et donc quand je suis arrivé, il y avait 60 000 euros de dette imprimeur, c'est-à-dire que à peine un livre rentrait chez nous, cet argent partait dans un trou sans fin. Et bon, donc pour reprendre, j'arrive pour mettre fin aux souffrances de tout ce personnel administratif. On essaie de faire semblant de dire on va s'en sortir, mais ça a marché. Donc on a remboursé la dette imprimeur en moins de 3 ou 4 mois, ce qui était déjà assez impressionnant. Ça a été vachement grâce aux gens qui nous aiment quand même. Mais avec un triste constat à ce moment-là, c'est-à-dire que les Rocs à Marteau, tout le monde adore ça, c'est super, la foire au vin, vive le supermarché Ferraille, mais au final, personne n'a acheté les livres. Et c'est vrai qu'on avait un entrepôt plein de livres, donc on a mis les gens en face de leurs responsabilités. Et puis ça a vraiment marché, donc on a réussi à rembourser cette dette. Maintenant, le gros point noir des Rocs à Marteau, c'est la dette auteur qui s'élève à peu près à 170 000 euros. Mais cette administration s'attaque à ce problème et je peux rien promettre parce que j'ai déjà fait et puis ça a foiré, donc là je promets plus rien. Mais c'est un problème qui nous tient vachement à cœur. Payer les auteurs, c'est quand même un petit peu important. Le triste constat de ça, je ne sais pas comment ça marche dans les autres structures, mais c'est l'auteur, c'est quand même la dernière roue du carrosse de ce métier, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même tout dépend de lui et c'est considéré comme une quantité négligeable. C'est-à-dire que la première personne qu'il faut payer, c'est le diffuseur-distributeur et qui prend une bonne partie, mais qui fait un excellent travail. J'espère qu'il ne nous écoute pas. Et en dernier, il y a l'auteur, quoi. Et ça, c'est triste. Mais on s'y attaque.
Justement, en fait, je repensais à Fantagraphics, qui aux États-Unis a connu à chaque fois des sauvetages multiples et qui se base, qui tient en partie grâce à la publication sur le côté de bande dessinée érotique, pour faire le lien avec la collection. Ouais. Le lien avec la collection BDQ. Alors, vous lancez cette collection avec. Est-ce qu'il y avait une volonté de finalement refaire un coup, entre guillemets, de se dire voilà, on va en parler, ou bien voilà, il y a vraiment une volonté de se dire on peut y aller.
J'aimerais qu'on soit capable de penser en ces termes-là. J'aimerais qu'un jour on se dise on va faire un bon gros coup. Non, c'est encore une. Alors cette collection BDQ, c'est Ciseau et moi-même qui nous en occupons. Mais oui, ça se vend bien. Qui aurait cru que les trucs de cul se vendraient bien ? On n'a pas fait ce calcul-là, mais c'est vrai que ça se vend extrêmement bien par contre.
Oui, parce que en fait, c'est en réalité, je pense, un marché dans la bande dessinée qui marche plutôt bien parce qu'effectivement, il y a des amateurs. C'est assez fort. Et puis, comment vous avez développé ? Vous avez... Dès le départ, vous aviez des idées de gens en tête, hein, ou c'est lors d'une réunion arrosée, vous vous êtes dit avec des auteurs, tiens, tu ferais pas une BD.
Qu'est-ce que vous voulez
dire ? Je n'insinue rien. Et de se dire, voilà, sur un coup de tête, ou lors de discussions, ou après vous invitez des gens en disant, tiens, t'as pas envie, ou finalement, vu les bouquins qui sortent, des auteurs se disent, vous contactent en disant, ça me plairait bien d'en faire un.
Alors. Un petit rappel historique, il y a quelques années, j'étais en atelier avec Lisa Mandel, qu'on aime beaucoup. Et en fait, l'idée, on l'a eue avec elle, et Lionel, et donc Ciseau, et moi-même. Au début, ce qu'on voulait faire, c'était Lisa Mandel, ça fait partie de ces auteurs qui nous ont montré une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'elle avait un blog, c'était il y a très longtemps. Donc, elle avait un blog, elle faisait une note tous les jours. Et quand elle faisait une dédicace, elle annonçait, et il y avait toujours du monde à ses dédicaces. Et déjà, moi, je trouvais ça vraiment intelligent, quand même. Bref, on s'est dit, pour nous, c'est évident que, bon, un auteur, c'est très seul. C'est dans sa petite mansarde, ça travaille. Et donc, forcément, c'est obligé qu'il y ait un côté de libido, beaucoup de frustration, on va dire. Donc, c'est un sujet duquel ils peuvent traiter. Ça, on est parti de cet axiome-là. On avait commencé avec un blog sur BDQ. On invitait des gens à nous envoyer des planches, etc. Et on s'était dit... Trop forte, cette eau. Et on s'était dit, une fois qu'on arrivera à 14 000 vues par jour, on fera le livre. Bon, après, très vite, on ne sait pas trop comment ça marche les blogs, donc on a un peu laissé tomber. Mais on sentait qu'il y avait du potentiel avec ce projet-là. Et donc, on a fait le tour des gros éditeurs avec notre idée de BDQ. On a quand même réussi à décrocher un repas, donc, dans lequel je me suis vraiment régalé. Et non, mais ça intéressait personne. Alors, quand ça intéresse personne, qu'est-ce qu'on fait? On va chez les requins marteaux. Et donc, on leur a proposé. Et puis voilà, à quel point c'était pas de faire un coup. C'est-à-dire que le premier qu'on a fait à Côte-Picot, on l'a tiré à 2000. Donc, ça s'est hyper vite épuisé. 2000, ça fait que c'est un livre cher. Enfin, donc, vous voyez, c'est. Mais maintenant, ça a changé. Et quand on fait un BDQ, on fait directement un tirage à 7000 ou quelque chose comme ça. Parce qu'on sait, c'est des livres du catalogue qui tournent. Et ça, on n'en a pas assez. Il nous faut. On a fait des petits calculs. Il faudrait qu'il y ait 50 titres qui tournent en continu. Et on doit être à une dizaine. Ouais. Un petit peu moins, peut-être.
Moi, j'ai lu des critiques élogieuses de, par exemple, La planète des vulves, et qui réussissait peut-être, quelque part, le programme des requins marteaux, puisqu'on avait à la fois quelque chose qui parlait, voilà, c'est du cul, quoi. C'est un type qui a un flingue, qui est une bite, etc. Donc, on reste extrêmement près du sujet. On ne tente pas de faire une bande dessinée qui serait ironique par rapport au sujet, mais qui serait à la fois pudibonde. On est vraiment de la pornographie. Et à la fois, il y a une vraie réflexion sur l'historique, par exemple, de la pornographie en bande dessinée. Et il y a un propos qui est aussi dans le bouquin. Et donc, ce critique, on faisait l'éloge à ces différents niveaux. À la fois quelque chose qui est une vraie couille de publier quelque chose comme ça, et il y a à la fin un vrai propos. Et donc est-ce que finalement là on trouve le point de rencontre parfait de la stratégie non stratégique des requins?
On dirait bien, mais non, mais c'est forcément confier un sujet comme ça à des auteurs, c'est-à-dire des gens qui ont une réflexion artistique. Quand on dit à un auteur, ça veut dire qu'il fait de la BD artistiquement, pour simplifier, quoi. C'est obligé qu'ils aient tous quelque chose. Ils ont tous quelque chose à dire, vraiment. Si on confiait ça à des gens qui font juste de la BD commerciale, mais c'est pas un gros mot dans ma bouche, hein, au contraire. Ça donnerait quelque chose d'autre. Mais là, on est en train de. Ouais, je crois qu'on est en train de mettre quelque chose sur pied que j'arriverai pas trop à définir, mais je sais qu'on est en train de faire quelque chose de pas mal avec ça. Voilà.
C'est pas un peu très clair. Ok, alors il est tout doucement l'heure de conclure. Donc justement, on voulait voir un peu qu'est-ce qui se présente pour les requins marteaux dans les mois à venir, les projets incontournables pour 2013, et comment vous allez forcer les auteurs à voter en 2014 à Angoulême.
Alors. Pour ce dernier sujet, c'est-à-dire le vote, c'est quand même, il y a quelque chose de très simple à mettre en place, que j'essaie d'expliquer au festival, mais personne ne m'écoute. Il suffit de mettre un open bar à la salle de vote et tout le monde ira voter. C'est aussi simple que ça.
C'est une des principales raisons pour lesquelles, voilà, on t'invitait. Enfin, ce matin, c'était pour.
Ça, c'est mon programme électoral. Ensuite, pour le gros truc incontournable, c'est le prochain Winschluss, In God We Trust, qui sort en août. Encore un bon coup de marketing, c'est bien pensé. Personne ne sort de trop de livres en août en général. Et normalement, donc c'est un truc qui va traiter de Dieu et de Superman.
C'est un gros projet, ça.
C'est un très gros projet. Il ne sait pas faire autrement, sinon. Donc un gros bouquin énorme avec beaucoup de travail. Il y aura beaucoup plus de textes que dans Pinocchio, ce qui n'est pas hyper dur. Un autre livre peut-être. Oui, je vais peut-être faire un livre de cuisine aussi, avec des auteurs. Ça devrait marcher.
Peut-être on pourrait juste terminer avec Ton destin à toi. Je me souviens que tu avais dit, je vais remettre à flot cette maison d'édition et puis me barrer en courant. Et puis là, je vois que tu ne cours toujours pas, donc ça veut dire que tu es toujours à la barre.
Bien sûr, et puis je ne l'ai pas du tout remis à flot encore. Hein. Mais peu de gens le savent, j'ai un bac B, c'est-à-dire un bac économique. Et en fait, pour lancer une société avant qu'elle marche, ça met entre 3 et 4 ans. C'est le temps que je me suis donné.
Eh bien, on te le souhaite de réussir, mais de rester à la barre quand même.
Ouais, pourquoi pas. S'il y a quelques petits avantages, pourquoi pas.
Merci beaucoup.
Merci à vous.